Donc, Genèse 45, et nous avons vu la semaine dernière que Joseph, enfin, s'est fait connaître à ses frères. Hein. Il était rassuré, et il savait que maintenant c'est vrai, leur cœur est changé, il n'y a plus la même attitude, et donc il se révèle à eux. Il dit, je suis Joseph, votre frère. Et puis, celui que vous avez vendu. Mais quelle était la pensée finale? Il dit, comment est-ce qu'il les rassure? Eux ont l'impression que c'est eux qui lui ont fait du tort et qu'il l'ont envoyé en Égypte. Comment? C'est Dieu. En fait, ils accomplissaient. Bon, ce qu'ils faisaient était mal. Hein. Ce n'est pas parce que Dieu se l'a arrangé et a fait quelque chose de bien que ce n'est pas pour ça que ce qu'ils ont fait était bien. Mais Dieu s'est servi comme Dieu sait se servir, même de la méchanceté du cœur des hommes et des œuvres mauvaises des hommes. Dieu peut s'en servir pour accomplir son plan. Hein. On a l'exemple en Israël aussi, hein, quand Nebuchadnezzar, ce n'est pas qu'il ait bien fait. Mais Dieu s'est servi de ça pour punir son peuple et en même temps pour les ramener. Hein, donc Dieu se sert de la méchanceté des hommes, et donc c'est pas lorsque nous voyons des méchancetés, des cruautés, nous voyons les choses qui se passent dans le monde, ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus là et qu'il ne contrôle plus la situation. Hein, parce que Dieu peut se servir des événements. Et même avec les événements récents, là, à Paris et un peu partout, là, c'est sûr qu'il y a pas mal de gens qui se sont posés des questions. Maintenant, je suppose que tous ne vont pas se tourner vers Dieu, mais il y en a quand même qui vont se poser des questions. Alors, on trouve Joseph se dévoile à ses frères. Et après, une fois qu'il l'a dit, il a dit, bon, comment va papa, hein, comment il... C'est sûr que ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vu. Et il dit, comment va notre père? Et ensuite, il leur dit, écoutez, au verset 8, il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Alors là, on a presque l'impression qu'il est au-dessus de tout le monde. Et je suppose que maintenant, ça fait déjà, s'il est rentré dans la septième année, hein, ça fait sept ans, hein, parce qu'il y a eu les cinq années d'abondance, et après, maintenant, ils sont dans la deuxième année de famine. Hein, donc ça fait sept ans, il a fait ses preuves, il a pu s'affirmer, et apparemment, il est devenu assez puissant. Hein, et tout le peuple sait que c'est lui qui les a sauvés. C'était pas Pharaon, même si Pharaon a une valeur de divinité, hein, dans la culture égyptienne, mais là, le Dieu de Joseph, il est plus fort. Hein, Dieu, et Joseph, ce qui est extraordinaire, parce que vous savez comment c'est chez les hommes, quand ils ont pas grand-chose, ils sont dans le besoin, oui, ils prient Dieu tout le partout. Une fois qu'ils sont puissants, on n'entend plus parler de Dieu. Joseph, même s'il est devenu puissant, il a tout, il ne manque rien du tout, il attribue quand même à Dieu son état et son statut. Hein, ça c'est là où on mesure la fidélité de quelqu'un, hein, la foi de quelqu'un. C'est que c'est plus facile de croire quand tout va mal, et c'est plus difficile de croire quand tout va bien. Hein. Mais celui qui est vraiment au Seigneur, qui est convaincu, eh bien, il reste fidèle. Il envoie au verset 9, il dit, « Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, » c'est le chapitre 45, « et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. » Et donc, il dit à son père de venir s'installer en Égypte. Il a dit, je peux tout pourvoir. Dieu m'a établi et je peux tout pourvoir. Et donc, viens en Égypte. Le problème, c'est que c'est l'Égypte. Et où est la terre que Dieu a promise à Abraham? C'est Canaan. Et donc, c'est un peu ce problème. Et là, on va revoir un peu le passé pour un peu voir ce problème-là. Donc, vous vous souvenez, Abraham, il y a un certain moment, il a quitté son territoire, son Ur en Chaldée, il est descendu en Canaan. Et puis là, en Genèse chapitre 12, Dieu lui dit, il bâtit un autel et puis il entre en communion avec Dieu. Et Dieu lui dit, je te donnerai ce pays. Ce pays sera ta postérité. Il dit, ce que tu vois là, ben ce sera, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que le grain de sable sur le bord de la mer. Il dit, ça c'est ton pays. Voilà. Bon, mais il y a un moment où il y a une famine en Égypte. Donc, c'est dans la suite du chapitre 12. Si vous regardez, vous pourrez suivre au fur et à mesure, là, on va progresser. Mais dans le chapitre 12, je vais lire ces versets-là, ces versets 10. Il dit, « Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. » Il n'y a aucune indication que Dieu lui a dit de descendre en Égypte. Il lui dit seulement, lui, il y a une famine, donc on descend en Égypte. C'est-à-dire qu'il se sert de sa tête. Et puis en Égypte, il y avait de quoi manger, c'est sûr, il n'y avait pas de problème. Mais bon, comme il descend en Égypte, mais quand même, verset 11, il regarde sa femme Sarah, et il lui dit, écoute, c'est quand même un peu belle. Et moi, il risque de m'arriver des malheurs. Toi, rien. Toi, mais moi, si je suis ton mari, si on pense que je suis ton mari, ben, il suffit qu'on m'écarte. Il dit donc que tu vas dire que tu es ma sœur. Ce qui était à moitié vrai. Vous connaissez quoi, hein? Je ne vais pas vous demander de lever les mains, mais combien ont utilisé des demi-mensonges, hein? Bon, il y a déjà, je ne vais pas parler des mensonges, mais t'as des demi-mensonges. Mais là, c'était un demi-mensonge, mais il vivait grâce à un mensonge. Un homme de foi, un homme qui est appelé le père de la foi, est obligé de vivre grâce à un mensonge. Et ça marche tant que personne ne se rend compte que c'est un mensonge. Mais vous savez, quand on vit grâce à un mensonge, dès que c'est découvert, en général les mensonges ils se découvrent, hein, eh bien on arrive à la fin du chapitre, et Pharaon il dit, écoute, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que c'est ta sœur, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'est ta femme, hein, au verset 18. Et verset 20, il dit, écoute, verset 19 déjà, « Pourquoi as-tu dit que c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Et donc, verset 1, chapitre 13, « Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. » Donc, est-ce que c'était la volonté de Dieu qu'il descende en Égypte? Bon, d'abord, il n'a pas consulté. Et après, le seul moyen de survivre là-bas, c'était un mensonge. Mais le jour qu'on a découvert le mensonge, il est obligé de rentrer. Parce qu'il ne vit pas. Hein, c'est pas, quand on est en train de vivre selon le mensonge, ce n'est pas le moment de prier Dieu. Il dit, mais Dieu arrange les choses. Et si les choses tournent mal, essaie d'arranger les choses. Il dit, mais le mensonge, moi, je ne peux pas travailler avec le mensonge. Hein. Il dit, il faut régler la chose. Tu remontes, tu rentres là où tu m'as laissé, là où tu as commencé à raconter les mensonges, c'est là où tu me renvoies, je remonte. Et c'est là où on se rencontrera. Et donc, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu avait dit, c'est ici la terre que je t'ai promise. Maintenant, est-ce que tu peux me faire confiance de pourvoir à tes besoins ici, malgré la famine, Dieu la contrôle, hein, il l'a fait venir quand il l'a fait venir, il l'a fait partir quand il veut la faire partir, même si c'est naturel. Hein, mais, et là, donc, Abraham tire une leçon, il ne faut pas descendre en Égypte. On passe suivant. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et donc, lui aussi, chapitre 26, donc Genèse chapitre 26, lui aussi, il y a une famine, au verset 1, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Donc ici, c'est la deuxième fois, hein, une famine par génération. Mais regardez ce que dit l'Éternel au verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. » Tu ne descends pas en Égypte. Ne fais pas la même erreur que ton père, ne descends pas en Égypte. C'est pas là, tu restes ici dans le territoire. Tu ne peux pas prétendre que ce territoire est à toi si tu n'y habites pas. Hein? Et le Seigneur ajoute, donc Jésus, quand le Seigneur dit tu ne descends pas en Égypte, mais il ajoute une promesse. Vous savez, quand Dieu nous donne un ordre, il nous donne les moyens de l'exécuter. Et verset 3, il dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Donc Dieu lui dit, écoute, tu restes là, la famine, c'est ce peu que d'autres partent, et c'est ce peu que tes voisins descendent en Égypte, ça c'est pas mon problème, ils font ce qu'ils veulent, mais toi tu restes ici. Et ça, tout ça fait partie du plan de Dieu. Dieu dit, écoute, tu restes ici, je te protège, je pourvois, je te bénirai, et finalement ça sera un avancement pour toi. Et l'Éternel le bénit, parce qu'il va descendre à Guérar, ce sera près des Philistins, c'est Gaza aujourd'hui. Hein, c'est... Donc il va descendre aux environs des Philistins, et il sera là pendant un temps. Mais là aussi, il va tenter de raconter un mensonge. Même s'il n'est pas descendu en Égypte, il va quand même dire, il dira de sa femme, écoute, tu diras que tu es ma sœur. Parce qu'elle aussi, elle est belle, Rebecca. Et alors... Mais quand Abimelech, le roi, là, il se rend compte, il dit, écoute, ça va pas, tu m'as raconté, tu as mis en péril toute ma famille, ma descendance, parce que Dieu a rendu toute la famille d'Abimelech stérile, et donc pour protéger Sarah, et donc Abimelech, il dit, ça va pas. Et donc, Dieu va obliger... Abraham, maintenant que les choses vont bien, il a semé, il y a eu de la récolte, tout ça, il dit, bon, maintenant tu remontes, hein, Isaac, tu remontes vers Beersheba. Donc au verset 23, il dit, il remonta de là à Beersheba, et l'Éternel lui apparut dans la nuit, lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Et il retourne là où il avait édifié le dernier autel. En général, quand on s'écarte, on s'éloigne de Dieu. Si on veut le retrouver, on le retrouve là où on l'a quitté. C'est jamais lui qui nous a quittés, c'est nous qui l'avons quitté. Et donc, on retourne là où on l'a quitté et on retrouve ce moment-là. Et on confesse ce qu'on a pu faire entre-temps. Donc, l'Éternel le fait remonter à Beersheba et il dit là, je prendrai soin de toi. Et donc, ils sont dans cette région-là. Et Dieu prend soin d'eux. Et arrive maintenant Jacob, troisième génération. Jacob, lui, il a tiré les conclusions. Lui, il y a une famine en Canaan, il ne descend pas en Égypte. Il dit à ses fils, vous allez chercher la nourriture, mais on ne descend pas en Égypte. Il a compris. On ne descend pas en Égypte, on reste là. Et qu'est-ce qui arrive ? Maintenant, il y a Joseph en Égypte qui dit à Jacob, viens en Égypte. Je vais poser des questions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hein, c'est compliqué, hein, là. Il dit, tu descends, il dit au grand-père, tu descends pas en Égypte. Il dit au père, tu descends pas en Égypte. Jacob, il dit, bon, je descends pas. Je souffre, on fait des trajets, mais on descend pas. Et là, il y a Joseph, qui est en Égypte, et qui, lui, tout d'un coup, lui, la vie a réussi, elle lui a souri, comme disent les hommes, et il est puissant, et il dit, papa, descends en Égypte, je m'occupe de toi. Qu'est-ce qu'on fait? On compte sur le fils qui va s'occuper de nous, ou on compte sur Dieu qui va s'occuper de nous? Imaginez la tentation. Voilà. Mais Joseph est convaincu que c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte. Hein, c'est ça qu'on a vu la dernière fois. Lui, il est convaincu. Lui, il n'a jamais quitté Dieu. Hein. Je pense qu'il a, en fait, il a vraiment rencontré quand ses frères l'ont vendu. C'est là où il y a quelque part, il y a eu une expérience. Parce qu'à dorénavant, on le voit tout le temps en train de faire confiance à Dieu et de vouloir vivre pour Dieu. Et lui, il est convaincu. Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Et comme on l'a vu la dernière fois, il dit, Dieu m'a envoyé ici. C'est pas vous, c'est Dieu qui m'a envoyé pour vous sauver. Alors pour que vous soyez sauvés, il faut que vous veniez ici. C'est, alors je lis, donc on l'a lu là tout à l'heure, hein, mais Ésaïe 45, relisez ça, voir, est-ce que, la question en fait c'est, est-ce que Joseph est en train de parler par son intelligence, ou est-ce que c'est Dieu qui parle au travers de lui? Et vous avez assez d'expérience dans la Bible pour savoir que même des prophètes, ils peuvent se tromper. Hein. Donc encore plus les pasteurs. Et donc, je lis au verset 9. Il dit, je l'ai lu tout à l'heure, il dit, « Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et de vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi, Seigneur, sur toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozan, tu en seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis, tes bœufs et tout ce qui est à toi. Et là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. » C'est tentant, hein? Mais est-ce que tout ce qui est tentant est la volonté de Dieu? On ne peut pas dire ça, hein? Dire ça, ça serait dangereux. Alors la question c'est, est-ce bien la volonté de Dieu? Et ça c'est une question qu'on rencontre, hein, quand on veut vivre pour Dieu, tout d'un coup on se trouve dans une situation. C'est pas évident. Hein, si c'est une question, tu tues quelqu'un ou tu fais du bien à quelqu'un, bon ça on arrive à connaître la volonté de Dieu, ça c'est simple. Mais quand il y a une option un peu difficile et une option un peu facile. Et puis en plus, ces autres fils qu'on aime beaucoup, qui fait appel, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que Jacob, il a dû réfléchir longtemps. Hein. Bon, il a vu, parce que Joseph envoyait les chars, hein, jusque-là, eux, ils faisaient la route à pied. Vous souvenez de Jacob quand il était revenu de chez Laban? Il y avait tellement, tout le monde devait marcher, qu'il marchait doucement. Il avait même dit à Ésaü, écoute, vas-y, on te rattrape. Nous, on a des enfants, on a des brebis, qui sont pleines et tout. On va aller tout doucement. C'est le seul moyen qu'il avait pour voyager. Pour des bergers, c'est le seul moyen. Et là, Joseph, il dit, viens vite. Il envoie des chars. Et puis, tu charges dessus, puis t'occupes pas. Je laisse les meubles et tout ça. Nous, on a de meilleurs ici. Laisse tes casseroles et tout ça. C'est pas la peine, rien que vous, venez. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Hein. Vous lisez les détails après, il a dit, écoutez, venez, et au plus vite. Mais Jacob, il est là en train de... Il doit réfléchir. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je veux bien voir mon fils, je veux bien descendre, mais après revenir. Mais lui, il me demande de descendre, de laisser tomber, et de venir m'installer. Parce qu'il lui parle, il dit, tes fils et tes petits-fils et tous. qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, chapitre 46, versets 1 à 7, Dieu intervient quand on se pose des questions. Hein, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Au verset, chapitre 46, verset 1, il dit « Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba. » Il est encore sur le territoire. Hein, il est encore sur Beersheba, c'est encore là où il y a l'autel. C'est le territoire. Il n'est pas sorti du territoire. Il arrive à Beersheba, c'est là où il y a les sacrifices. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête là et il offre des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Donc, il cherche la volonté de Dieu. Joseph a dit de venir. Mais même si Joseph me dit de venir, d'abord, je vais voir Dieu. Et alors, Dieu répond. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit, « Jacob, Jacob !» Israël répondit, « Me voici !» Et Dieu dit, « Je suis le Dieu, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Ah ben voilà, Dieu a tout dit. Abraham était descendu parce qu'il fallait trouver une solution. Il y a la famine, et au lieu de consulter Dieu, au lieu de compter sur Dieu, ben lui, il se débrouille comme on peut. Hein. Isaac, c'était un peu la même tentation. Jacob dit, moi, je reste là, même si je meurs là, je reste là, parce que Dieu a dit que de rester là. Il dit, bon, ben, puisque maintenant tu es attaché à moi, tu veux, écoute, tu peux descendre. Et Jacob est descendu, non pas parce que Joseph lui a dit de venir, non pas parce qu'il y avait tous les chars et parce que tous les frères, ils avaient reçu des manteaux neufs. Hein. Joseph, il a donné, vous lisez la suite du chapitre, Joseph a donné un manteau neuf à chacun des frères. Sur Benjamin, il lui a donné trois, mais... Et la question, c'est... Et Jacob, il voit tout ça arriver, il voit tous ses fils arriver comme ça en vêtements neufs et de qualité, hein, digne d'un prince. Et il voit ses chars, il voit tout ça. Oh! Non, non, il va consulter Dieu. Et c'est là où Jacob, peut-être, c'est un moment extraordinaire dans la vie de Jacob. C'est un point important et c'est un bon exemple pour nous. Jacob, qu'on connaît bien comme étant le tordu, le malin, le voyou et celui qui a trompé son père et tout ça, hein, et bien là, c'est celui qui, avant, même si Joseph, qu'il aime tant, et il apprend qu'il est vivant, il dit non, mais Dieu d'abord. Dieu d'abord. Plus je l'aime, j'aime Dieu plus que mon fils. Et c'est là un exemple extraordinaire. Et Dieu ne cherche pas à faire souffrir. Hein. Dieu lui dit, écoute, descends. Non seulement je te donne l'autorisation, mais je t'accompagne. Je t'amènerai et je te ferai sortir de là. Bon, nous connaissons l'histoire. Hein, c'est 400 et quelques années plus tard hein, qu'il le fait remonter. Hein, par la main de Joseph, Moïse, je veux dire, par le moyen de Joseph, Moïse. Alors, la question maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a changé de recommandation? Pourquoi pour un c'est interdit, et puis pour l'autre c'est permis, je t'accompagne même. Et, bien, réfléchissons un petit peu. C'est le problème. Le problème, les enfants de Jacob commencent à se mélanger avec les Cananéens. Ils ont pris des épouses cananéennes. Pour Isaac, on avait été chercher une épouse ailleurs. Pour Jacob, il avait été chercher... Bon, il en a eu deux pour le prix d'un. Non, il a payé le prix de deux, mais il en voulait une et il en a eu deux. Hein, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail de ça. Mais elles viennent d'ailleurs. Mais les fils commencent à prendre les femmes du pays. Et quand on commence à prendre des femmes du pays, c'est-à-dire les non-croyants, et on commence, et petit à petit, on devient un croyant comme eux. C'est jamais le contraire. Hein? Vous mettez une bonne pomme avec des pommes pourries, je vous laisse faire l'expérience. Vous perdrez la seule pomme que vous avez. Et donc, Dieu va prendre... Là, ils sont à peu près 70. Hein? Il va les prendre, il va les descendre en Égypte. Et il descend en Égypte, et regardez au verset 33 et 34. Parce que Joseph a rencontré son père et dit, écoute, tu vas devoir rencontrer le pharaon. Quand tu vois le pharaon, voilà ce que tu vas lui dire. Hein, il dit, vous répondrez. Verset 33, il dit, quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation, vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. Donc nous sommes des bergers. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozan, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Il dit, eux, ils ne se mélangent pas avec des bergers. Les bergers, c'est sale. Les bergers, c'est des gens pas bien. Donc, ils ne vont pas vouloir ni vous donner leurs filles, ni prendre les vôtres. Et dans le pays de Gozan, c'est dans le delta du Nil. Donc là-bas, c'est vert tout le temps. Ça convient aux brebis. Mais ils vont être un peu, et c'est pour ça que j'ai mis un peu le mot ghetto, ils vont être comme ça, isolés. Mais c'est la meilleure manière de les préserver pour qu'ils ne se mélangent pas. En Canaan, ils commençaient à se. Hein? Mais là, Dieu va les laisser descendre. Mais ce n'est pas parce qu'il a changé de plan, c'est parce qu'il garde toujours son peuple. Et il veut le préserver. Et donc, ils vont rester là pendant 430 ans. Hein? Moïse dira dans Exode 12, verset 20, il dit qu'ils sont restés là pendant 430 ans. Donc ça fait quand même une dizaine de générations. Hein. Et arrive un moment, bon là après, il y a un pharaon qui connaît plus Joseph, qui se souvient plus de Joseph, parce que le mot pharaon, c'est pas un nom d'une dynastie, c'est comme ça qu'on nommait le roi. Donc il y avait plusieurs différentes dynasties, et parfois il y avait un renversement, et puis il y avait un autre peuple carrément qui venait. Donc c'était même pas les mêmes Égyptiens, mais ils prenaient toujours le nom de Pharaon. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un Pharaon qui n'a aucun souvenir de Joseph, parce qu'il vient carrément ailleurs. Hein, c'est toute une autre origine. Et lui, il a la pensée, parce qu'ils sont tellement nombreux maintenant, il a la pensée de se protéger. Alors il dit, maintenant on va en faire des esclaves, comme ça on va se protéger. Mais encore, c'est une manière, en faire d'eux des esclaves, au moins, comme ça ils restent purs entre eux. Et après, Dieu va, bien sûr, vous connaissez l'histoire, Dieu va les purifier, les faire sortir de là et les ramener en Canaan par la main de Moïse et puis de Josué. Et regardez Actes chapitre 7, c'est le témoignage d'Étienne. Donc quand on arrive après que tout soit passé et on voit l'interprétation, donc Actes chapitre 7, verset 17. Vous pouvez lire tout le chapitre, hein, mais bon, en fait, il arrive là, à peu près là où nous sommes. Et verset 17 dit, le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifices contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. Bien sûr, ils cherchaient la mort. Et verset 20, à cette époque naquit Moïse. Donc, les choses étaient arrivées au point, maintenant Dieu est prêt. Bon, maintenant on va les ramener en Canaan. Vous lisez le début de Genèse, chapitre 12, il dit, le péché en Canaan n'était pas à son comble. Mais 430 ans plus tard, quand Josué, bon, vous avez les 40 ans dans le désert, donc 470 ans, quand Josué va rentrer, le péché de Canaan était à son comble. Et Dieu pourra juger. Et il sera juste en jugeant. Même si c'est pas beau, mais c'est la justice de Dieu qui purifie le pays. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Quand Joseph a dit il dit, Dieu m'a envoyé ici pour vous sauver, Eh bien, il y avait un premier sens, c'est qu'il va vous sauver, vous préserver dans la famine, les 5 années de famine. Il dit, donc il va vous sauver, parce que eux, déjà, il n'y avait plus rien en Canaan. Jacob, il dit, je ne descends pas en Égypte, on se débrouille. Joseph dit, mais il reste encore 5 ans, hein, vous n'allez pas tenir. Donc il dit, Dieu m'a envoyé ici pour vous sauver, pour vous maintenir en vie. Déjà une première chose. Ensuite, il va vous faire descendre en Égypte pour vous préserver, pour que vous, vous ne mélangez pas avec la population de Canaan, mais que vous restiez un peuple pur. Hein, donc, pourquoi ? Eh bien, parce que il fallait préserver la lignée d'Abraham jusqu'au Christ. Christ est un descendant d'Abraham. Mais si ça se mélange dans tous les sens, on ne sait plus qui est et on ne pourrait pas reconnaître. C'est pour ça que quand vous commencez l'évangile de Matthieu, eh bien, il part de la lignée pour nous dire que c'est un fils d'Abraham. Vous prenez la généalogie de Jésus dans l'évangile de Luc, il va jusqu'à Adam, mais ça passe par Abraham et on peut tracer. Et c'était important. Et donc, c'était important de garder ce peuple pur. Et finalement, quand Joseph, il en disait plus que ce qu'il pensait, je pense. Hein, je ne crois pas qu'il ait compris tout ça. Mais en fait, tout ça, quand il dit « Dieu m'a envoyé pour vous sauver », en fait, c'est... Qu'est-ce que j'ajoute finalement, il a envoyé Joseph en Égypte pour préserver la famille. Il l'a envoyé en Égypte pour préserver la descendance d'Abraham. Et finalement... préserver la lignée du Sauveur et pour nous sauver. Parce que si Christ n'était pas, ne pouvait pas reconnaître Christ comme descendant d'Abraham, parce que vous vous souvenez, quand Abraham a offert son fils en sacrifice, bon, finalement, il l'a sacrifié dans son cœur, mais il ne l'a pas sacrifié matériellement. Mais en tant que père, il l'a donné. Dieu dira, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Hein, il dit, Genèse 22, 15, il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et il dit, je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et c'est cette postérité, ta postérité, une postérité particulière qui est Jésus-Christ. Eh bien, donc finalement, quand Dieu a envoyé Joseph en Égypte, il nous a sauvés. Il dit, wow, il pensait loin. Ben oui, parce que nous, on est comme des animaux, on pense à aujourd'hui. Et si j'ai bien mangé aujourd'hui, je vais dormir et je suis tranquille et puis on verra demain. Bon, il y en a qui pensent à... Même si on pense à la fin de sa vie, on pense qu'à quoi dans, hein, quand on, déjà on commence à penser à la retraite, on a déjà 40 ans. Et alors il reste que au maximum hein, 20 ans, 30 ans. Hein, on pense pas plus loin. Mais Dieu a pensé bien plus loin. Il a pensé à notre salut. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand les frères, dans leur méchanceté, ont vendu leur frère à l'esclavage. C'était déjà, ils agissaient selon leur cœur, mais ils accomplissaient le plan de Dieu. Comme nous avons dit, Dieu dans sa préscience, il arrive à prévoir, parce qu'il sait ce qui va arriver. Et donc il construit, sachant de ce qui va arriver. Plus tard, c'est à peu près où on est dans l'histoire, c'est Jacob qui rencontre son fils Joseph. ça, il dit, Dieu m'envoie ici, c'est pour vous sauver. Mais ça va plus loin encore, parce que ça va jusqu'à la naissance du Christ. Et ça va jusqu'à la résurrection de Christ. Et finalement, le mot sauver, hein, c'est un beau plan, un plan complet. Et nous devons comprendre, hein, nous avons un Dieu qui n'est pas comme ça, puis au fur et à mesure, il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, est-ce que j'ai une idée? Je ne sais pas trop. Non, non, Dieu a un plan. Même si on a l'impression que les choses vont de travers, comme Joseph aurait pu le penser pendant 20 ans, mais en fait, Dieu s'est servi de lui pour faire une belle chose. Et c'est important que nous le comprenions. Je vous demande de lire avec moi dans Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3, et au verset 16. Vous connaissez bien Jean 3, 16, ben Galates 3, 16. Il dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, à ta descendance. En fait, dans Joseph, on a lu « postérité », hein, dans notre traduction. « Ta postérité ». Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Ici, c'est le même sens, c'est le même mot. Il dit « c'est-à-dire Christ hein, ». C'était ça. Finalement, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, lorsqu'il a offert, hein, lorsque Isaac était encore sur l'autel, il a dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi ». Et quand Dieu l'a dit, il fallait qu'il assure. Et qu'il, tout en laissant l'homme libre de faire ce qu'il veut faire, Dieu fait des plans. Bon, c'est pas dans l'armée française... On ne laisse pas les hommes faire ce qu'ils ont envie de faire, et puis ça accomplit la volonté du chef des armées. Mais Dieu est tellement puissant qu'il peut laisser les hommes libres de faire ce qu'ils ont envie de faire, et son plan s'accomplit comme il le veut, au détail près. Ça, c'est un Dieu digne de confiance. Et c'est un honneur de pouvoir l'appartenir. Et c'est de notre intérêt de pouvoir de vivre pour lui et avec lui. Joseph a dit, Dieu m'a envoyé pour vous sauver. Finalement, c'est les mêmes paroles pour nous. Hein. Dieu l'a envoyé pour nous sauver. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, hein, Jésus-Christ aussi est descendu sur terre. Et c'était pas seulement 20 ans de misère en Égypte, mais Jésus a passé 33 ans de misère sur la terre. Mais pour devenir notre sauveur. C'est des choses qui se ressemblent. Pourquoi ? Parce que c'est le même auteur. C'est notre Dieu. Alors, voilà les beautés hein, de ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et tout ça, c'est des choses qui nous rassurent de nos jours. Quand on a l'impression que les choses vont mal, il suffit de lever les yeux et dire « Dieu, je te fais confiance. Tu prendras soin de nous. » Et c'est à lui de nous conduire selon sa volonté. Prions.